Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, je vous propose de revenir sur les violences xénophobes en Afrique du Sud. Depuis le début du mois, les attaques racistes qui ont déjà fait 12 morts suscitent, vous le savez, indignation et inquiétude sur le continent africain, d'autant que le pays, première puissance industrielle d'Afrique, accueille plusieurs millions d'émigrés. En tout cas, on en parlait à l'instant dans le journal, le Nigeria a décidé de se mobiliser pour ses ressortissants, tous ceux qui le souhaitent pourront rentrer gratuitement au pays. Un pont aérien est mis sur pied dès ce matin. D'ailleurs, un premier avion vient tout juste de décoller. Alors, que vous inspire cette initiative? L'Afrique du Sud est-elle encore, selon vous, un Eldorado pour les migrants africains? Vos réactions, vos témoignages, 33 9 693 693 70. Et vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. J'en lirai quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI. Tiburce est avec nous ce matin. Il nous appelle de Calavi à Bomé. C'est au Bénin. Bonjour Tiburce.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Nous vous écoutons. Soyez le bienvenu.
Merci. Depuis quelques semaines, la frontière Bénin-Nigéria est fermée par les autorités nigérianes dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Alors, quels sont les impacts de la fermeture de la frontière par les autorités nigérianes sur l'économie béninoise?
Sur l'économie béninoise, c'est vrai que cela fait maintenant 3 semaines que le Nigeria a décidé de façon unilatérale de fermer ses 3 frontières terrestres avec le Bénin. Bonjour Jean-Luc Aplogan.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondant de RFI au Bénin, Tiburce le rappelait en substance pour justifier cette décision. Le président du Nigeria a invoqué les activités de contrebande et notamment celles concernant le riz. On imagine, Jean-Luc Aplogan, que la fermeture de la frontière est un coup dur pour l'économie béninoise.
Oui Juan, parce que les échanges entre les deux pays sont très importants et depuis 23 jours maintenant, tout est au point mort. Les conséquences sur l'économie béninoise, c'est la question de l'auditeur. Ce sont les recettes douanières qui vont être impactées en premier. Ça fait 23 jours maintenant que la douane béninoise n'a pas perçu un centime de taxe, par exemple à la frontière Kraké, l'une des frontières les plus importantes. Et selon nos informations, eh bien, les recettes mensuelles à cette frontière-là, à la frontière de Kraké, avoisinent les 300 millions de francs CFA. Le problème est que les autorités béninoises sont réticentes à communiquer. On n'a pas eu un seul communiqué de la douane depuis, pas une seule conférence de presse. Du coup, il est difficile de dire avec précision l'impact sur les prévisions de recettes de l'année 2019 pour le Bénin. Mais on peut déjà retenir que le coup est très rude pour les importateurs de riz qui le réexportent sur le Nigeria. Très dur aussi pour les vendeurs de véhicules d'occasion. Les cambistes, ceux qui font le change, sont au chômage. Les producteurs et vendeurs de fruits et légumes ont eu des pertes sèches. Les prix de l'essence de la contrebande ont flambé et environ 500 camions de tout gabarit sont bloqués à la frontière de Kraké avec des marchandises.
Ouais, le manque à gagner est donc réel, aussi bien pour l'État que pour l'activité économique privée. Tiburce, vous avez une autre question?
Oui, le président Buhari et le président Patrice Talon se sont rencontrés au Japon lors de la conférence des chefs de l'État sur le développement de l'Afrique. Oui. Alors, qu'est-ce qui a pu filtrer de cette rencontre pour la réouverture des frontières? Et est-ce qu'une réouverture est-elle envisageable?
Alors, Jean-Luc Aplogan, on imagine que cet épineux dossier de la fermeture de la frontière a été évoqué entre Patrice Talon et Mahamadou Buhari.
Oui, et selon les informations de RFI, Buhari a expliqué d'abord à Patrice Talon, son voisin, pourquoi il a fermé les frontières. L'auditeur le disait tout à l'heure, c'est à cause de la contrebande massive. Il y a 41 produits qui sont concernés, notamment le riz, les voitures d'occasion, les poulets congelés, les tissus, les jus de fruits. Le Nigeria ne les veut plus sur son territoire. L'idée d'un sommet entre le Bénin, le Nigeria et le Niger a été évoquée au cours de cet entretien. Le projet est toujours à l'ordre du jour. Sur la réouverture de la frontière maintenant, personne ne peut avancer une date. Le président nigérien qui subit des pressions situation en interne, a demandé un peu de temps au président Talon, le temps de réceptionner un rapport qu'il a commandé sur la question. Et puis, information RFI, les présidents Talon et Bouhari pourraient se voir ce week-end à Ouagadougou à l'occasion du sommet G5 Sahel.
Information donc RFI. Merci Jean-Luc Aplogan. Vous êtes au Bénin, vous êtes au Nigeria. Vous souhaitez peut-être témoigner des conséquences et répercussions de la fermeture de ces trois frontières terrestres. Eh bien, appelez-nous. Vous pourrez témoigner, si vous le souhaitez, vendredi dans la libre antenne. Tiburce, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui. Merci beaucoup à vous.
Merci surtout à Jean-Luc Aplogan, notre correspondant au Bénin. Bonjour Claude.
Bonjour Juan, bonjour Daniel Valo et bonjour à votre sympathique équipe.
Vous êtes bien informé, je vois que les techniciens vous ont dit déjà qui répondra à vos questions. Daniel Valo, correspondant permanent de RFI à Moscou. Bonjour Daniel.
Bonjour.
On vous a contacté ce matin car Claude a des questions à vous poser concernant la Russie après le revers électoral du parti au pouvoir aux élections de dimanche, les élections locales, notamment à Moscou.
Tout à fait.
Claude, allez-y.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Le parti de Vladimir Poutine a enregistré une lourde défaite lors des élections municipales à Moscou. Première question, comment interpréter cette défaite de Vladimir Poutine ?
Alors, Daniel Valo, défaite effectivement du parti au pouvoir, qui a donc subi de lourdes pertes dimanche aux élections du Parlement de Moscou. Comment l'expliquer ? Comment interpréter ?
Bien écoutez, la première explication, c'est la consigne donnée par Alexeï Navalny, le chef de file de l'opposition au Kremlin, dont les candidats n'ont pas été autorisés à se présenter. Consigne non pas de boycotter l'élection, mais de voter et de voter systématiquement pour les candidats qui étaient le plus à même de battre le parti au pouvoir. Et cela, quelle que soit l'affiliation de ce candidat, il pouvait s'agir d'un communiste ou d'un membre du parti de Vladimir Jirinovski, de toute autre formation, il fallait voter pour la personne qui, selon les sondages, était en mesure de l'emporter. Pour mettre en place cette stratégie que Alexeï Navalny a appelée la stratégie du vote intelligent, sa fondation anticorruption a même créé un site internet dédié. Il suffisait sur la page internet de rentrer son adresse à Moscou et apparaissait alors le nom du candidat qui était en théorie celui le plus à même de battre le représentant du pouvoir. Pour Alexeï Navalny et pour ses partisans, c'est clairement cette stratégie inédite en Russie qui a suscité cette série de défaite à Moscou pour le parti au pouvoir. Mais bien évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec cette explication, à commencer par les communistes, car ce sont eux, les communistes, qui sont les grands gagnants de ce scrutin. Ils ont remporté 13 sièges sur les 45 du Parlement municipal. Et bien entendu, le Parti communiste de Russie estime que c'est la qualité de ses candidats et la qualité de la campagne qu'ils ont menée qui explique leur succès.
Et puis, il y a une autre explication, Daniel Valo, c'est tout simplement l'immense impopularité du parti au pouvoir.
Bien entendu, hein, Russie Unie est au plus bas dans les sondages actuellement, à tel point que les candidats soutenus par les autorités se présentaient comme des candidats indépendants, même s'ils bénéficiaient de moyens considérables, bien supérieurs à leurs adversaires. Il y a un vrai rejet actuellement du parti au pouvoir, en raison notamment de la réforme des retraites, de la baisse du pouvoir d'achat, du népotisme, de la corruption, et c'est sans doute cela, avant tout, qui explique le revers cinglant subi dimanche dans la capitale russe par les autorités.
Et vous aviez une autre question, Claude ?
Vous l'avez dit tout à l'heure, Daniel, alors que le taux de participation n'est que de 21%, ce revers est-il vraiment significatif de l'impopularité de Vladimir Poutine ?
Vous avez en partie répondu, Daniel Valo.
Oui, alors tout à fait. Hein. Mais d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est avant tout Russie Unie, hein, le parti au pouvoir qui est impopulaire. Le gouvernement l'est également, les élites locales le sont également, les institutions sont très impopulaires. Tout l'entourage, toutes les structures qui entourent Vladimir Poutine, mais le président russe, lui, il conserve tout de même un socle de popularité important qui ferait d'ailleurs pâlir d'envie bien des dirigeants politiques dans d'autres pays. La cote de popularité du président russe reste élevée, mais elle a tout de même beaucoup baissé depuis sa réélection de 2018. Deux raisons à cela. Je le mentionnais tout à l'heure, la stagnation ou même la chute des conditions de vie. Et puis, la fin de ce que l'on a appelé ici le syndrome de Crimée, cette fièvre nationaliste qui s'est emparée de la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. Et cette idée que les Russes, eh bien, pouvaient pardonner à ses dirigeants et donc à Vladimir Poutine des conditions de vie moins florissantes. en échange du grand retour de la Russie sur la scène internationale. Ce système-là ne fonctionne plus. Les Russes se sont lassés de cette guerre froide permanente menée avec l'Europe et les États-Unis. Et surtout, ils veulent pouvoir payer leurs factures et conserver un niveau de vie acceptable. Ces deux éléments, Juan, expliquent en grande partie la dégringolade de Russie unie et ce début d'impopularité du président russe.
Voilà, avec en toile de fond, évidemment, les prochaines échéances électorales, 2021 les législatives et 2024 la présidentielle. Daniel Valot, en direct de Moscou, merci d'avoir répondu à Claude qui nous contactait de Douala. On va continuer à parler de la Russie et de ses relations avec l'Ukraine. David, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous nous avez contacté du Congo, vous êtes à Brazzaville dans la capitale, on vous écoute, quelles sont vos questions?
Oui, ce week-end la Russie et l'Ukraine ont réalisé un échange inédit de prisonniers. Quelle est la portée diplomatique de cet échange dans les relations russo-ukrainiennes? D'autres avancées pourront-elles avoir lieu, notamment concernant la Crimée?
Oui, 35 prisonniers ukrainiens détenus en Russie et 35 prisonniers russes détenus en Ukraine ont effectivement été libérés samedi dernier dans le cadre d'un échange. Elena Gabrielian, bonjour.
Bonjour, Juan.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à la rédaction russe de RFI. C'est incontestablement une victoire diplomatique pour le nouveau président ukrainien. Mais toute la question est de savoir quel sera finalement l'impact de ces échanges sur les relations avec la Russie. La question de David, c'est la question que tout le monde se pose.
Il faut savoir que c'est le plus grand échange entre la Russie et l'Ukraine depuis le début du conflit en mars 2014, quand après la révolution pro-européenne en Ukraine, la Russie annexe la péninsule ukrainienne de la Crimée et commence à soutenir militairement les séparatistes pro-russes dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. En 5 ans, le conflit a fait plus de 10 000 morts et plus d'une centaine d'Ukrainiens sont retrouvés dans des prisons en Crimée, dans le Donbass séparatiste, mais aussi en Russie, qui d'ailleurs nie toujours son implication dans le conflit. Et cet événement sans précédent est d'autant plus important que pendant longtemps, la situation était complètement bloquée.
Oui, libérer les prisonniers ukrainiens, c'était l'une des principales promesses électorales de Vladimir Zelensky, qui est devenu président de l'Ukraine il y a 4 mois.
Oui, tout à fait. Et depuis, il semble que la glace s'est fissurée. Kiev et Moscou, d'ailleurs, ont fait des concessions assez significatives. Par exemple, pour la Russie, c'était assez difficile de prendre la décision de rendre Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien réclamé d'ailleurs par la communauté internationale, mais aussi 24 marins ukrainiens capturés par des Russes en novembre 2018. Kiev aussi a dû faire un effort en livrant à la Russie le séparatiste Vladimir Tsemar, un témoin clé dans l'enquête sur le crash du MH17 en juillet 2015 dans le Donbass. Et cet échange inédit a suscité les encouragements de la communauté internationale. Emmanuel Macron, Angela Merkel comme Donald Trump ont exprimé leur espoir que cet événement contribue à la poursuite du processus de paix.
Oui, contribue au déblocage de la situation dans l'est de l'Ukraine. Est-ce que d'autres avancées pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, les prochains mois, et notamment concernant la Crimée?
Alors, les présidents russes et ukrainiens se sont parlé à plusieurs reprises au téléphone pendant cet été et juste après d'ailleurs les échanges, cet échange de prisonniers. Dans le dernier entretien téléphonique, Poutine et Zelensky ont exprimé leur satisfaction de cet événement. Le président ukrainien l'a qualifié comme première étape sur la voie de la normalisation du dialogue. Et à Paris, on parle d'un pas décisif, car en France, on espère pouvoir très prochainement organiser une réunion pour la paix en Ukraine. Il s'agit du sommet au format Normandie. Je rappelle, c'est un format qui rassemble les chefs d'État ukrainiens, russes, français et allemands.
Et ce serait donc la première réunion depuis 4 ans?
Oui, la dernière a eu lieu en 2015 en France. Et ce sommet pourrait également se tenir en France d'ici la fin du mois. Ce sont les accords de Minsk signés en 2015 qui feront objet de négociations. Donc il s'agit uniquement de la résolution du conflit dans le Donbass, qui d'ailleurs empoisonne les relations entre la Russie et l'Occident depuis 5 ans. Mais en ce qui concerne le statut de la Crimée, Moscou n'est prête à mener aucune négociation. Et d'ailleurs, ça figure pas dans les accords de Minsk. Pour la Russie, cette péninsule n'est pas annexée, mais bien rattachée à la Russie suite au référendum en mars 2014, chose que l'Ukraine ainsi que la communauté internationale refusent de reconnaître.
Donc les discussions s'annoncent tendues.
Exactement.
Exactement. David, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci à vous.
Merci surtout à Elena Gabrielian de la rédaction russe. À bientôt, Elena.
À bientôt, quoi.
Il est 10h25 à Paris. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, vos réactions, vos témoignages après les violences xénophobes de ces derniers jours en Afrique du Sud, avec en toile de fond cette initiative du Nigeria. Le Nigeria qui propose à tous ses ressortissants qui le souhaitent de rentrer gratuitement au pays. Des avions ont été affrétés pour permettre donc aux ressortissants nigérians de quitter, de fuir leur patrie d'accueil. L'Afrique du Sud, devenu un cauchemar pour de nombreux immigrés qui ont trouvé du travail dans ce pays. L'occasion évidemment de lancer le débat sur ce pays, sur cette nation arc-en-ciel. Fait-elle encore rêver les migrants africains? On a envie de vous entendre au 33 9 693 693 70. Il nous reste encore 4 minutes, le temps de prendre une dernière question ce matin. Fabrice, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les invités de RFI.
Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous vous écoutons.
Oui, je suis à Kinshasa. Nous avons appris aux États-Unis que le Pentagone avait annoncé avoir déjà débloqué la somme de 3,6 milliards de dollars pour la construction du mur à la frontière mexicaine.
Mmh. Oui.
Alors, mes questions sont les suivantes. Trump avait estimé que ce coût total serait de 20 milliards de dollars. Mmh. Où est-ce que Trump pourrait trouver le montant manquant?
Ah, effectivement, c'est une bonne question. Alors, Trump avait estimé, il y a plusieurs estimations qui circulent sur le coût de la construction de ce mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est vrai que le chiffre qui revient le plus souvent, c'est un chiffre élevé, 20 milliards de dollars. Corentin Célin, bonjour.
Bonjour.
Professeur agrégé d'histoire, vous êtes spécialiste des États-Unis. On vous doit aux éditions Atlande cet ouvrage, Les États-Unis et le monde, de la doctrine de Monroe à la création de l'ONU. Un peu moins de 4 milliards de dollars débloqués, évidemment c'est insuffisant pour construire ce mur.
Oui, pour construire un mur sur l'ensemble de la frontière, comme c'était le rêve initial de Donald Trump. Mais Donald Trump lui-même a rabattu par rapport à ses ambitions initiales. Aujourd'hui, il l'a dit le 4 septembre, il s'agit d'ici l'élection de 2020 d'avoir environ 800 kilomètres couverts par des murs, et lui ce qu'il appelle un mur. Alors, ça nécessitera donc moins de fonds, et c'est ce qui explique ce qu'il fait depuis plusieurs mois, c'est-à-dire de détourner, de réaffecter des fonds qui avaient été initialement donnés au ministère de la Défense pour des constructions militaires. Eh bien, il dit, moi je prends ces fonds pour financer une partie du mur. Et la Cour suprême, dans une décision assez importante, l'a autorisé à le faire pour une première partie des fonds, et ici c'est une seconde partie des fonds détournés du ministère de la Défense qui vient d'être annoncée. Mais il faut bien préciser qu'on n'est plus du tout dans l'ambition de construire un mur sur toute la frontière, mur qui d'ailleurs, faut-il aussi le rappeler, devait être financé selon Trump par le Mexique.
Évidemment,
là aussi,
ouais.
Il n'en est plus du tout question. Mmh. On est sur vraiment un but politique, c'est-à-dire de montrer qu'il y a des choses qui se construisent, pour dire à ses électeurs en 2020, voyez, malgré l'opposition du Congrès, malgré l'opposition des médias, j'ai tenu cette promesse très importante pour vous.
Oui, c'est vrai que le temps presse pour Donald Trump. On est à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, et pour l'instant, Trump n'a pas fait bâtir le moindre kilomètre de murs, de barrières nouvelles. Il nous reste une petite minute, Corentin Célin. A-t-il l'espoir de débloquer davantage de milliards de dollars pour continuer à poursuivre les travaux d'ici la fin de son mandat?
Alors, c'est peu probable, parce qu'il n'en aura pas le temps avec la technique que j'indiquais. Surtout, il va être confronté à un problème d'affichage, parce que pour l'instant, il n'a pas fait construire, vous le disiez, de nouveaux murs. Il n'y a pas de nouveau kilométrage de murs qui a été construit sous Trump. Et c'est vraiment ça son défi, c'est-à-dire de pouvoir dire, je n'ai pas fait que remplacer des barrières qui étaient usées, défectueuses, mais j'ai bien fait construire un nouveau mur. Et là, il va avoir un problème, parce que les procédures judiciaires se multiplient, et les opposants essayent de bloquer, justement, pour le mettre en défaut avant l'élection de 2020.
On suivra ça, évidemment. Merci beaucoup, Corentin Célin, spécialiste des États-Unis.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.